émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
prennent l'ascenseur. Ils vont jusqu'à l'étage du bureau de l'avocat. Là, avec un passe-partout, ils ouvrent la porte et entrent. N'éclairent pas, ils se servent de torches électriques. Ouvrent les portes. Le bureau de l'avocat. Fouille de partout. Les tiroirs, les dossiers. Ils réussissent même à ouvrir un coffre. Après avoir cherché de partout, ils repartent bredouille. Peut-être est-ce que le testament a été déjà déposé chez le notaire. Une heure plus tard, les deux hommes, qui sont minces, cheveux noirs, habillés en costume noir, sont dans le bureau d'Albert. L'un dit à Albert, « Ne va rien trouver. » Albert lui dit, « Merci tout de même. » Il leur donne une enveloppe et les autres se retirent. Albert va retrouver sa femme qui est déjà couchée dans sa chambre. Il lui dit, ils n'ont rien trouvé. Sa femme soupire. Albert lui dit, il est peut-être chez ma mère. Sa femme lui dit, et si on éliminait Adrien? Oui, si on éliminait Adrien, le testament ne voudrait plus rien. La vieille sera obligée. C'est de se rabattre sur toi. Et lui demande, l'éliminer comment? En le tuant? Elle lui dit, non, en ne faisant rien, juste en le faisant partir. Comme il est, il lui arrivera sûrement quelque chose, ou il disparaîtra de lui-même et on n'entendra plus parler de lui, ou il sera tué par quelqu'un. Pour lui, pour se défendre, sera tué, ou quelqu'un pour se défendre sera tué par lui. Là, il aura des ennuis avec la police. Elle sera enfermée. Laisse-le faire. Il lui dit, mais la vieille, elle va le faire rechercher. Elle lui dit, faut faire en sorte est-ce que les recherches n'aboutissent pas? C'est simple. C'est tout simple. faut qu'il puisse sortir. Et une fois dehors, il fera comme d'habitude. Et cette fois, il ne reviendra pas. S'il revient, ce sera mort ou entre deux gendarmes. Il réfléchit, il se dit qu'il faudra peut-être donner un petit coup de pouce pour qu'il puisse s'en aller. Lambert fait toujours sa petite promenade matinale. Cela le détend. Et qui sait, peut-être retrouvera-t-il le jeune garçon ou un autre. Dans ses promenades qu'il fait dans les rues désertes et sombres, il voit de plus en plus de rats et ça l'inquiète. Il se dit que cela risque d'amener des maladies. Et pourquoi les rats sont-ils si nombreux à sortir ? Lorsqu'il passe dans la rue où il a rencontré le jeune garçon, il a un désir terrible de le revoir et de sentir la douceur de son corps contre lui. Mais une honte le prend. L'après-midi, que Jean est sorti, Adrien est dans sa chambre et s'ennuie. Oui, il s'ennuie. On a frappé à la porte. Il dit « Entrez ! » C'est le chauffeur qui lui dit « Il fait tellement beau aujourd'hui que vous pourriez sortir dans le parc. Ça vous ferait du bien, monsieur. » Adrien lui dit « Mais ma grand-mère, chauffeur lui dit, elle est sortie, monsieur. Il faut en profiter pendant qu'elle n'est pas là. » Alors Adrien sort de la chambre pour aller dans le parc. Dans le parc, il est tout enivré, oui, enivré, malgré qu'il fasse étouffant, il est enivré par l'espace qui l'entoure. Il court dans tous les sens, heureux, heureux. Et il voit au bout du parc qu'il y a le portail qui est resté ouvert. Vite, il court vers leur portail et sort. Là, il voit surpris une voiture qui est près du portail. Il ne peut résister à la voiture, qui est une belle voiture. Une très belle voiture. Rouge de tourisme, tremblant. Il met la main sur la portière et la poignée. Il voit que la portière s'ouvre. Encore tremblant, Il entre dans la voiture à la place du chauffeur. Voit que sur le tableau bord, il y a les clés. Les mains qui tremblent de plaisir et de peur. Il met la voiture en route. Il est tout heureux, tellement heureux qu'il en pleure de joie. Il ne sait plus. Il se dit, voilà, j'ai réussi. J'ai une voiture, je la conduis, je suis le plus fort. Et cette fois, personne ne m'en empêchera. C'est moi qui suis le meilleur. Oui, c'est moi qui suis le meilleur. Il conduit de plus en plus vite, fait même du 150 à l'heure. Il est heureux et se dit qu'il est le plus fort, qu'il est celui qui sait le mieux conduire au monde. La preuve, la voiture file à 150, il est capable de la conduire à cette vitesse. Oui, il est capable de la conduire à cette vitesse. Bien sûr, qui sait conduire à 150 à l'heure, mais les voitures, ils n'en voient pas, ils n'en dépassent pas. Les routes sont désertes. Si elles étaient encombrées de voitures, il aurait eu de grosses difficultés. Ils filent dans les rues presque désertes, droit devant lui. Se retrouve vite à la campagne, tout heureux et libre et puissant. Il est le maître du monde, ne pense plus à rien, ni à sa grand-mère, ni à ses ennuis de santé. Il est seul au monde et le plus puissant du monde, le plus fort. Une fois qu'Adrien a pris la voiture et filé, le chauffeur a téléphoné à Albert pour lui dire « C'est fait, monsieur. Il a pris la voiture qui lui était destinée. » Albert lui dit « Merci. » Denise, qui est près de lui, demande à son mari « Alors ?» Il lui dit « Voilà, c'est fait. » Elle lui dit « On ne risque pas de le revoir de longtemps. » Jeanne revient chez elle. Une fois qu'elle s'est changée dans sa chambre, elle va à la chambre d'Adrien et ne le trouve pas. Elle cherche dans la maison. Demande aux domestiques s'ils ne l'ont pas vu. Elle demande à sa secrétaire dans son bureau, qui est Mademoiselle Berthe, une femme de 45 ans, grande, mince, blonde, visage doux. Elle a un caractère énergique à imiter d'une robe noire toute simple. Vous n'avez pas vu Adrien ? Elle lui répond. Je l'ai vu jouer dans le parc, madame. Elle lui dit furieuse. J'ai interdit qu'il sorte de la maison. La secrétaire lui dit. Je suis pour rien, madame. C'est pas moi qui l'ai fait sortir. Jean lui dit. Bien, je vous remercie. La mère inquiète, la grand-mère inquiète va dans le parc pour le chercher. Elle se souvient d'une chose, c'est que le portail était ouvert lorsqu'elle est rentrée. Elle se dit que quelqu'un a dû laisser le portail ouvert et qu'il a dû s'en aller. Alors, elle convoque toute la maisonnée et leur dit « Adrien est parti, le portail était ouvert. » Que la personne qui a laissé le portail ouvert se dénonce. Il sera très sévèrement puni. Personne ne dit rien et soupire et demande au chauffeur. Sillonnez les environs. Essayez de le retrouver. Le chauffeur lui dit. Bien, madame, j'y vais de suite. Et le chauffeur prend la voiture pour chercher Adrien, qui en réalité ne le cherchera pas, trop content qu'il soit parti. Rue Saint-Jacques, il arrête sa voiture. Il est entré dans un vieil immeuble lugubre de 3 étages. Sonne à la porte de droite du palier du 2e étage. Une jeune femme en déshabillé rose, les cheveux ébouriffés, maquillée comme une pute. Elle lui demande « Qu'est-ce qui se passe, Polo ?» Il lui répond « J'ai une demi-journée de congé. » Elle lui dit « Eh bien, entre !» Elle se pince son cou et le mène à sa chambre. Son appartement est sale. Ça sent le parfum, bon marché et l'humidité. Elle allonge sur son lit et défait ses vêtements. Se couche sur lui et lui demande « Que se passe-t-il ? » « Ma patronne me fait rechercher son petit-fils. Alors moi, au lieu de rechercher, je préfère venir chez toi. » Adrien roule, roule. Oui, Adrien roule et il est heureux, heureux. D'un seul coup, la voiture s'est arrêtée d'elle-même. Il voit sur le tableau de bord qu'il n'y a plus d'essence. Alors, il est furieux. Il se met à pleurer. Il se trouve en pleine campagne. Une campagne sèche, poussiéreuse. Il ne peut que sortir de voiture et marcher. Furieux de laisser cette belle voiture comme ça, mais il oublie, me disait, c'est d'aller chercher de l'essence. Il marche dans une chaleur terrible. Le ciel est un ciel de plomb. Pas de bruit, seul le bruit de ses pas. Il a soif, faim, l'angoisse le prend. Alors il commence à compter en marchant. Marche droit devant lui dans un état d'inconscience. Très vite, il oublie où il est et pourquoi il est ici. Les jours passent, terribles. Il marche. Comme un somnambule devant lui, sans savoir pourquoi. Puis petit à petit la soif, la faim et la fatigue. Épuisé. Il s'allonge sur le rebord de la route. Il arrive à s'endormir. Pas de bruit. Sommeil de plomb, noir. Il se réveille. Se voit dans un paysage de plomb en plein jour et pas de bruit. Ne sachant pas vraiment où il est et pourquoi il est là, il se met en route. Oui, il se met en route. En marchant, titubant comme un somnambule. Puis, au bout d'un moment, il tombe à terre, sans connaissance, les bras et les jambes allongés, la tête sur le côté, sa peau rougie, déshydratée, l'insolation. Il est inconscient et risque de mourir. Ses lèvres sont blanches, ses paupières aussi. Il est collé au sol dans un décor désertique. La chaleur est toujours là. Il n'y a pas de pluie. Les gens sont fatigués et tombent malades. L'eau commence à sérieusement manquer. Et qui dit eau, dit aussi difficulté pour les produits agricoles, donc pour s'alimenter. Les entreprises ont aussi des difficultés à produire par manque d'eau et de matières premières à cause de la chaleur. Cela risque de créer de graves conséquences. Ça inquiète le gouvernement et les municipalités. À Paris, le maire réunit à l'hôtel de ville les responsables sanitaires et les directeurs d'hôpitaux et cliniques, etc. C'est pour faire un bilan, pour savoir ce que l'on pourrait faire pour éviter la catastrophe sanitaire causée par la sécheresse et aussi réfléchir pour ravitailler la ville. Rambert est invité. Ils sont une cinquantaine de personnes qui sont dans une salle de la mairie centrale avec le conseil municipal. Le maire demande à tous de s'expliquer et de s'exprimer. Certains disent que ce n'est rien, que l'automne va bientôt arriver et la pluie avec. D'autres disent que l'on risque la catastrophe avec des épidémies, maladies très graves. Rambert est de leur côté. Après des discussions interminables, on décide c'est de prévoir des lits supplémentaires dans les édifices municipaux qui seront réquisitionnés et dans tous les services médicaux pour ouvrir des lits supplémentaires. On réquisitionne aussi les médecins, infirmières qui sont à la retraite, les ambulanciers, pompiers sont aussi mis sur le plan d'urgence. On réquisitionne même les retraités pour avoir du personnel supplémentaire pour soigner les malades. On crée un standard où les gens doivent d'abord téléphoner avant d'aller chez le médecin pour savoir ce qu'ils ont réellement. Le service d'entretien sanitaire passera 2 fois par jour. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junier, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Junier.